Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Que faut-il faire pour réussir la reconversion sociale des colons? Eh bien, nous en parlons encore une fois aujourd'hui dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service avec notre premier invité qui est déjà avec nous dans ce studio, Gabin Kindembe, ambassadeur de la paix et coordonnateur national de la fondation qui porte le même nom. Monsieur Gabin Kindembe, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous aurons également notre invité, le professeur Mbalanda, qui est sociologue. Et dans la deuxième partie de l'émission, on va parler de comment évolue le programme d'électrification du Grand Kassai. Nous aurons pour invité Idesbal Chinamula, directeur général de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Voilà le menu pour le magazine Okapi Service de ce jour. Jean-Noël Mokonde est à la technique. Tatima Poukou réalise et coordonne ce numéro présenté par Marcel Gomombala sous la supervision de Jean-Marc Matoy qui a tout. Et à tous, excellente condition d'écoute.
Radio Capi opère quelques améliorations sur sa grille de programme à partir du lundi 5 septembre 2022.
Désormais, vous suivrez, en plus de l'invité du jour en français, les invités du jour en swahili et lingala le matin et le soir. L'émission Parole aux auditeurs passera désormais à 9h05, heure de Kinshasa, avec deux rediffusions à 13h05 et 21h. Nous ferons aussi tous les jours les points sur la situation des marchés urbains en lingala.
Les magazines thématiques passeront du lundi au vendredi à 14h05 et 20h, heure de Kinshasa.
Et la rétrospective de l'actualité de la semaine interviendra tous les week-ends matin. Beaucoup de musique aussi pour vous détendre.
20 ans après sa création, Radio Capi se rapproche davantage de ses auditeurs et internautes pour mieux les servir. Radio Capi,
voilà, on en parle encore aujourd'hui de la de ce qu'il faut faire pour la reconversion sociale des Kuluna. En tout cas, les phénomènes Kuluna continuent à se faire parler de lui à Kinshasa. Il se passe surtout à Kinshasa. Il se passe pas un seul jour sans que l'on enregistre un acte de vandalisme causé par des groupes de jeunes délinquants appelés communément Kuluna. Les bagarres rongées de ce groupe dans les quartiers populaires de la capitale affectent la quiétude des paisibles citoyens. Et à leur passage, ils dérobent les biens des innocents et ceux qui osent s'opposer sont souvent victimes des coups et blessures. Certains victimes ont même perdu la vie à la suite des actes de vandalisme et des Kolona. Que faut-il faire, en tout cas, pour réussir la réconversion sociale de Kolona? Si vous êtes intéressé par ce sujet, vous pouvez appeler au 0-81-890-63-94-09-706-63-94. Nous avons déjà dans ce studio notre premier invité, Gabin Kindembe, qui est ambassadeur de la paix et coordinateur national de la fondation portant le même nom. Voilà, Monsieur Gabin. Le phénomène Kolona, en tout cas, refait à surface, surtout dans la ville de Kinshasa. On n'arrête pas de déplorer ces actes de vandalisme et de ces jeunes délinquants qu'on appelle généralement Kolona. Alors, avant de parler de la reconversion sociale de Kolona avec vous, vous êtes coordinateur national de la fondation Gabin Kindembe. Parlez un peu rapidement de cette fondation.
Bon, merci monsieur le journaliste. Je ne serai pas si long parce que nous savons que le thème principal porte sur le moyen dont qu'on doit mettre en œuvre pour combattre le phénomène Kolona. Oui. Mais pour parler de la fondation Gabin Kindembe existe depuis 2006. Nous sommes reconnus par l'État congolais. Et nous avons comme objectif d'abord l'encadrement de jeunes filles, de filles mères, des orphelins, de veuves. Et nous avons aussi la sécurité environnementale dont on a comme préoccupation. Et aussi, surtout, nous avons aussi la recherche de la sauvegarde de la paix. C'est dans ce sens-là que nous parlerons souvent de ce phénomène Kolona pour chercher comment la combattre.
Alors, vous parlez souvent de ce phénomène Kolona. Alors, on va parler aujourd'hui de la réconversion sociale des Kolona. Est-ce que c'est possible, en tout cas, de faire en sorte que ces jeunes délinquants puissent s'intégrer vraiment dans la société plutôt que de continuer à faire ces actes de vandalisme?
Bon, merci monsieur le journaliste. Avant de parler de la reconversion de Kolona, il nous faut d'abord préciser que le phénomène Kolona, c'est du banditisme urbain. Le banditisme urbain a plusieurs conséquences et nous savons tous, et nous voyons aux yeux, aux vies, aux yeux de tout le monde que le phénomène Kolona est en train de prendre de l'ampleur dans toute la ville de Kinshasa. D'abord, c'était dans quelques communes, mais aujourd'hui, c'est presque tout l'espace de la ville de Kinshasa qui est victime de ces actes barbares que nous sommes en train de condamner. Et c'est pourquoi nous disons d'abord que le Kolona en soi est né comment? Le phénomène Kolona d'abord, par la petite expérience que nous avons en cherchant à approcher ces enfants, souvent ils sont abandonnés par leurs parents. Il y a d'abord la négligence des parents. Et il y a aussi la non-scolarité de certains enfants. Il y a l'abandon des uns et des autres par les mauvais sorts, donc de certaines églises qui nous font des prophéties pour tel enfant qui serait sorcier, et les enfants sont abandonnés, ils sont souvent dans la rue. Mais la plupart, 90% des enfants Kolona, ce sont des enfants qui sont fils et filles maison. Nous les connaissons, nous connaissons souvent leurs adresses, nous connaissons leur mode opératoire. C'est pourquoi nous disons que, comme ce sont des personnes bien identifiées, qui sont dans les maisons, qui ont des adresses précises, peut-être qu'ils échappent au contrôle de la police, ou bien au contrôle de services de sécurité, mais généralement, il y a moyen de reclasser ces enfants-là, de réinsérer dans la vie sociale, en utilisant la sociologie et la socialisation des masses pour pouvoir ramener ces enfants vers la raison.
Alors concrètement, comment on peut s'y prendre? Prenons par exemple pour votre cas dans la fondation Gabin Kindembe. Je ne sais pas si vous avez réussi à réinsérer socialement certains Kolona.
Oui, nous sommes en pleine campagne depuis le 14 août de cette année. Nous n'avons qu'à peine un mois d'activité, de sensibilisation. Avant de penser à la sensibilisation, nous avons mis en place un comité de la Fondation Gabin Kindembe qui a approché les différents Kolona dans la commune de Matete particulièrement. Nous avons été dans les quartiers Bantandou, dans les quartiers Pouloulou, dans les quartiers Kwenge, dans les quartiers Mongo, dans les quartiers Bateke où j'habite. Donc nous avons essayé d'approcher les uns et les autres par le biais de ceux qui sont en train de faire des porte à porte. Nous avons certaines vidéos, nous avons des images, des entretiens que nous avons eus avec ces enfants. Et nous avons réussi d'abord, il y a une cinquantaine d'enfants, parmi lesquels nous comptons comme les enfants qui sont déjà avec nous. Et ce sont ces enfants aussi qui sont et porte-étendard de notre message. Donc, nous avons même une chanson que...
Quand vous dites porte-étendard de votre message, c'est-à-dire ces enfants partent pour sensibiliser d'autres Kulunas.
Oui, ces enfants-là partent pour sensibiliser d'autres Kulunas. Après la première semaine que nous ayons sensibilisé ces enfants-là, il y a eu une vague de certains enfants Kulunas qui allaient vers le quartier Bantandu menacés de faire les Kulunas. Mais vous comprendrez que ce sont ces enfants qui ont accepté d'abandonner les Kulunas, qui ont arrêté quelques-uns et qui les ont conduits à la police. Donc déjà, nous savons que nous avons réussi à approcher vers nous, à la suite des actions de la socialisation des masses que nous menons, que ces enfants-là sont déjà avec nous et ils sont maintenant actifs pour combattre les phénomènes Kulunas. Il y en a même un qui a été vraiment, je peux le dire, sur les antennes, il a fait de Kanyamakasese à Matete à pied. Et cet enfant maintenant est reconverti et grâce à nous, son papa lui a acheté une moto. Je l'ai présenté sur deux chaînes déjà dans la ville de Kinshasa.
Là c'est déjà des efforts entrepris au niveau de la fondation Gabin Kindembe qui n'est pas vraiment qui est encouragée parce que vous parlez déjà à peu près d'une cinquantaine de Kulunas qui ont pu être reconvertis. Et c'est là ils vont jouer un peu le rôle des pères éducateurs auprès d'autres Kulunas. Et vous comptez vous y prendre comment pour faire en sorte que
je comprends votre question, monsieur le journaliste. Si je parle de 50, c'est en termes chiffrés, mais le phénomène Kulunas, c'est comme le cancer. Oui. Donc il y a la métastase qui peut se développer. Quand nous mettons la main sur leur chef, les ténors de groupe, moi, je suis convaincu que le nombre que je présente est si faible par rapport à la réalité. Pourquoi? Parce que quand vous mettez la main sur un des leurs, qui est ténor de cette activité-là, qui bannit le phénomène Kulunas, autour de lui, il y a plusieurs autres garçons qui acceptent le mot d'ordre qui vient de leur chef. Donc, je suis en train de me battre avec le moyen de bord, avec les sportifs de la commune de Matete. Je suis en train de me battre avec les églises, les clergés catholiques, les pasteurs, les familles, les écoles, même les radios communautaires qui sont dans la commune de Matete. Nous sommes en train d'envisager d'étendre nos actions dans la commune de Lemba, dans la commune de Limete, dans la commune de Selembao et de Kisenso et dans la commune d'Engaba. Nous avons, après le premier passage que j'ai fait effectuer ici sur vos antennes, j'ai reçu plusieurs coups de fil des amis qui sont de Selembao, de Bumbu et de Bandalungwa. Parce qu'à Bandal, actuellement, le climat n'est plus bon et nous sommes en train de faire des efforts pour que nous puissions mener à bon port nos actions. Mais à part la socialisation, il faut se dire, nous n'allons pas seulement nous limiter à socialiser ces jeunes Kulunas parce que nous nous posons une question, qu'est-ce qu'il faut après la socialisation? Nous ne voulons pas tomber sur les mêmes erreurs. C'est pourquoi nous nous sommes dit, après la socialisation, il faut chercher à occuper ces enfants-là. Oui. Il y a certains ministères qui ont dans leurs prérogatives la sécurité, l'entretien, le soin qu'ils doivent apporter aux enfants. Nous avons le ministère des PST, nous avons le ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs, nous avons le ministère des Affaires Sociales, nous avons le ministère des Droits Humains, nous avons même le ministère de l'Agriculture qui peut poser des actes pour pouvoir encadrer ces jeunes gens-là. Donc pour nous, c'est une sonnette d'alarme que nous lançons aux autorités civiles et policières, parce qu'au niveau de la police aussi, au niveau de l'armée, nous pouvons avoir des gens qui peuvent passer à mener des actions de sensibilisation. Nous sommes limités par le moyen, nous sommes limités par la batterie d'hommes que nous avons pour mener ces actions-là, mais nous sommes conscients, nous sommes convaincus que les autorités de la République qui nous suivent en ces moments puissent se mettre vraiment du bon côté pour combattre le phénomène Kulunas. Nous le disons et nous ne cessons de le dire que le phénomène Kulunas, c'est un frein pour le développement de l'économie de notre nation.
Alors cette question avant d'ouvrir le standard, parce qu'il y a déjà des auditeurs en ligne, est-ce qu'au niveau des communes, vous essayez également d'impliquer les autorités municipales?
Bien sûr que oui. La première personne à qui nous avons porté l'information, c'est le bourgmestre, M. Katsongo, de la commune de Matete. Il nous a reçu déjà une fois. Et la deuxième personne à qui nous avons porté notre message, c'est le chef de division des affaires sociales qui nous assiste de temps en temps, avec qui nous avons eu beaucoup de séances de travail. Nous avons aussi approché le service de renseignement de la NER qui nous donne quelquefois les informations pour pouvoir les approcher et approcher ces enfants-là. Nous avons aussi approché Mama Odia qui est chef de service de sport, jeunesse et sport de la commune de Matete. Donc là, vous vous direz, que vous vous rendrez compte qu'au niveau de notre commune, nous ne sommes pas comme un poisson isolé dans l'eau. Nous sommes ensemble avec nos autorités. Nous conjuguons nos efforts ensemble pour que la paix puisse régner dans la commune de Matete.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Okapi et bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. Nous parlons de ce qu'il faut faire pour réussir la reconversion sociale du Kouloun avec Gabin Kindembe, ambassadeur de la paix et coordinateur national de la Fondation portant les mêmes noms. Si vous êtes intéressé, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, le numéro d'appel c'est les 0-81-890-63-94 ou encore les 0-9-756-63-94.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Voilà, on y va avec le premier auditeur qui nous appelle depuis Lubumbashi. Charles, bonjour.
Bonjour aussi à l'invité ainsi qu'aux nombreux auditeurs.
On vous écoute, Charles.
Monsieur Marcel, je ne cesserai jamais de le dire que pour réussir cette reconversion sociale, il faut l'effort de tout un chacun de nous. Il faut l'implication de tout un chacun de nous. On ne doit pas abandonner cela à l'apanage d'une seule personne. On dit, un proverbe d'ici chez nous dit que un seul doigt ne peut jamais tuer l'époux. Alors, pour y arriver et mettre complètement fin, il faut vraiment l'implication de tout le monde. À partir de nos quartiers, comme je le disais encore ces jours-là, on a enchanté M. Marcel, ici à Lubumbashi, par rapport aux bailleurs, qui ne cessent jamais de prendre le nombre élevé de jeunes gens qui vivent dans l'oisiveté, dans une même chambre, une même maison ou une même parcelle. On les a tant conseillés, on les a sensibilisés. Malheureusement, ils ont des réponses là vraiment insupportables. Oh, j'avais construit la maison moi seul. Qui est-il pour venir me donner des injonctions? Alors là, c'est déjà un danger. Vous trouverez ici à Lubumbashi, Dans une petite pièce, monsieur Marcel, il y a 6, il y a 8, il y a voire même 10 jeunes garçons qui manquent à faire, qui ont fait l'exode rural. Et ça devient une charge, ça devient une bombe à retardement. Mais malheureusement, je ne sais pas si il faut un coup de fouet pour que ceux-là, qui sont propriétaires des maisons ça et là, puissent quand même aussi entendre cela de leurs bonnes oreilles. Et puis, par rapport à nos dirigeants, il faut chercher aussi une très bonne politique avant de procéder à la fermeture d'une carrière ou d'un site minier, par exemple. Mais malheureusement, dans l'espace Grand Katanga, il y a autant de sites miniers. On arrive parfois à une fermeture brusque comme ça, sans toutefois réfléchir en amont quelles seront les conséquences graves après avoir procédé à cette fermeture-là. Là, c'est exposer encore des jeunes gens à faire du n'importe quoi. Au moment où nous voulons, nous sommes en train de réfléchir pour mettre fin. Alors,
voilà, merci. Terminer, allez-y, terminez. Oui, allez-y, pour terminer.
Pour terminer, est-ce que dans ce pays, il existe aussi les ministères des genres et familles? Parce que, à mon humble avis, c'est comme si ces ministères-là n'existaient pas. C'est ces ministères qui devraient nous aider, nous épauler. Combien d'emplois ont été créés par trimestre, par semestre, par an? Mais malheureusement, c'est le silence des cimetières. Où serait ce ministère-là? C'est un ministère qui est vraiment clé.
Merci, merci.
Dans bon nombre de pays.
Merci beaucoup,
mais
Charles. Merci
ici, beaucoup. Nous, ce n'est pas le cas, monsieur Marcel.
Merci beaucoup, Charles, d'avoir appelé depuis le Lubumbashi. Gaston, vous êtes avec Kinshasa. Bonjour, Gaston.
Bonjour.
On vous écoute, Gaston.
Bon, j'allais d'abord préciser que ce phénomène que nous appelons Kuluna, qu'on impute aujourd'hui à certains individus qui sont assis qualifiés de Kuluna, n'est pas réglementé. Il n'y a pas une terminologie, c'est-à-dire un terme juridique qui fait qu'on impute une personne cette qualité, surtout qu'on ne l'arrête pas qu'il l'est. Même s'il n'y a pas des infractions en vraie terre qui sont commises par cette personne-là. Alors, il est aussi vrai qu'il y a ces groupes-là, hein, qu'on appelle, parce que les Kuluna, peut-être que vous voyez pas assez, les Kuluna, ce sont des brigands, ce sont forts, ce sont des gens qui vous font torer tous les jours, qui font des pompages des sportifs, et qui sont là, actuellement, utilisés par les politiciens congolais. Ça, vous l'ignorez pas. Moi, je pense que peut-être pour éradiquer les phénomènes Kuluna, puis s'atteler sur la politique de nos compatriotes qui utilisent certaines personnes pour se tailler à Boyomogobani. Parce qu'il est costaud là, il a des animaux agressifs, il est prêt à se toucher, il est prêt.
Alors Gaston, la grande question, comment faire pour en tout cas réussir la reconversion sociale du Kuluna? C'est ça la grande question. Oui.
Reconversion sociale, là vous faites plus allusion à nos petits qui sont dans nos quartiers, qui peut-être n'ont pas suivi une bonne éducation, n'ont pas un bon encadrement, qui se débrouillent. Qui peut-être aussi, qui sont considérés comme des voyous, des trucs comme ça, et dans la plupart des cas qui constituent aussi certains groupes dans les quartiers où ils s'affrontent avec leurs voisins, les grandes raisons, c'est peut-être c'est l'argent qui, peut-être aussi des femmes, des petites filles, comme on dit là, ils ont moitié une habitude de voyer, à côté de yo, des trucs comme ça, des couloirs qu'on a connus ici. Mais pour insérer ces petits peuples-là, c'est pas grave, parce que ce sont des petits que nous vivons avec, et nous, personnellement, moi, personnellement, je les considère, parce que moi, pour moi, ils sont pas Kuluna, comme vous l'y pensez, si c'est pas des voyous, hein, qui se font voir publiquement, ils sont voyous, ils font des infractions, au vu et si de tous où on arrête, on les libère, ils sont aussi en prison pendant un bon moment, mais si ce sont nos petits-là, ils sont nos enfants. Ces petits-là, ce qui manque, à mon avis, c'est quoi? C'est que ce sont des petits qui doivent travailler, hein, qui doivent être occupés.
Donc, Gaston, pour toi, pour vous, ce sont juste des petits voyous, hein, ceux du quartier, les colons dans ça, pour vous, ce sont des véritables brigands urbains, c'est ça?
Non. Les colons, hein, ce sont ces petits voyous-là. Parce que quand vous, en vrai sens du terme, dans notre pays, ce sont ces petits que nous connaissons qui vivent dans nos maisons, qui sont dans des quartiers.
Oui.
Où, d'ailleurs, je suis en train de faire un sujet là, hein. Je suis en train de diriger un sujet d'un commandant de la police, qui s'appelle Franck. Je l'avais cité autrefois, Franck Njingulula, Kabash. Donc, il est en train de parler aussi de les aspects que nous sommes en train de. Ce sont nos enfants qui on comprend bien. Mais il y a aussi un certain Kuluna. Une certaine catégorie de Kuluna que je n'ignore pas, aujourd'hui qui sont Bayanke, mais sont plus utilisés par rapport à leur masse, par rapport à leur encadrement, ils sont utilisés par les politiciens.
Voilà, vous l'avez déjà dit, en tout cas, vous voulez encore répéter sur ça. Bon, l'invité va réagir par rapport à ça. Voilà, merci Gaston. Oui, merci Gaston d'avoir appelé depuis Kinshasa. Justin, vous êtes à Fungurume. Bonjour Justin. Justin, vous êtes en ligne depuis Fourmouroumé. Apparemment, il n'est plus en ligne. On va le retrouver plus tard. On va. Justin, vous êtes en ligne?
Oui, oui, je suis en ligne.
Allez, on vous écoute, Justin.
Ok. Je voulais dire, monsieur le journaliste, si nous tournons en rond, sans toutefois citer les concernés sur les phénomènes, en tout cas, nous risquerons de pleurnicher jusqu'à l'infini. Chaque quartier, chaque bloc, chaque commune, chaque entité a des éléments de surveillance. Donc, on appelle communément les agents de la sécurité. Il n'y a rien qu'on peut faire si ces gens ne se mettent pas convenablement au travail. Ils doivent collaborer avec les chefs de quartier, ils doivent collaborer avec les chefs de l'ANR, ainsi de suite. Il y a même des services là sous forme de tchembe-tchembe, malheureusement, on a seulement changé les noms. Les gars, là, nous vivons avec eux. Les gars, là, nous les savons même par leur nom. Et parfois, même leur famille, nous pouvons les connaître. En tout cas, pour éradiquer ça, la charge revient à l'État de faire bien son travail. Vous verrez, nous prendrons fin de ce système dans de brefs délais. Quelqu'un qui habite, il n'est pas connu chez lui. Peut-être qu'il a quitté chez eux, il arrive au village, il n'a aucun boulot. Mais vous le regardez comme ça. Finalement, la nuit, il fait quoi? J'ai déjà eu à dénoncer même quelques maisons ici à Fourmouroumé. Mais rien de la part de nos dirigeants, de nos services de sécurité. Donc, apparemment, ils sont en train de se ressourcer aussi dans ce système-là. Puisqu'on tombe sur un voleur et un brigand, donc on doit les ravir d'abord tout, qu'il ne sera pas remis à la famille. Alors ça, c'est un aspect qu'on doit vraiment décharger contre le service de sécurité. Leur travail, ce n'est pas seulement demander les amendes transactionnelles pour quelqu'un qui a battu sa femme, pour quelqu'un qui a volé, pour quelqu'un qui s'est endetté, et même sécuriser la population et leurs biens. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, monsieur Jody et monsieur Marcel, si on trouvait l'occasion d'être aussi un parlementaire, on doit revoir quelques lois, telles que l'infraction est individuelle. C'est ce qui est à la base des pépinières de délinquants. Parce que si quelqu'un est raté à la famille, c'est très difficile de le rattraper sur la rue. Et si on faisait, il y a la psychologie ou la pédagogie qui dit que l'enfant est né naturellement bon. C'est la société qui le rend mauvais. C'est pire et simple. Si la famille s'efforce de bien éduquer ses enfants, et si, en cas de dérapage, on amène ses retombées à la famille, ça pouvait nous aider à bien avancer et que le nombre sera réduit et les services de sécurité s'en prendront convenablement. Ce qui nous manque, le nombre de Koulouna sont devenus ingérables et les agents de sécurité minimes. Et pour le gérer, très difficile.
Merci. Ensuite, merci, Justin. C'est bon, là. Non, en 30 secondes, hein, votre conclusion, oui.
Oui, je voulais leur dire que quand un enfant, un brigand fait le mal, on le tue. Mais vous verrez sa famille venir déclarer et ses parents demander même les indemnités, on les paye la maison, ainsi de suite. Et pourquoi pas celui-là, quand il fait mal, on amène celui qui devrait bénéficier les maisons et tout comme ça, de payer. Il se mettra aussi convenablement à éduquer son enfant pour ne pas être dans la rue. Si on les laisse comme ça, en tout cas, ces enfants-là appelés Koulouna, ils ont leur nom. Il y a les Pierre, les Rodrigue. Si celui qui avait donné ces noms-là avait bien éduqué son enfant, on ne devrait pas retomber dans de telles histoires qui fait pleurer toute la population.
Voilà, merci Justin d'avoir appelé depuis Fourmouroumé. Marcel Didier, vous êtes à Luisa. Bonjour Marcel Didier.
Bonjour monsieur Marcel Kitambala. Merci aussi et bonjour à monsieur votre invité, monsieur Gabin Kindembe.
C'est Marcel Ngombo, s'il vous plaît. C'est Marcel Ngombo. C'est Marcel Ngombo à l'antenne.
Marcel Ngombo, excusez-moi d'avoir massacré votre nom.
On vous écoute, oui.
Alors, la reconversion, monsieur Marcel, à mon avis, à la reconversion sociale de Koulouna est possible, mais et non pas impossible. Mais il aurait fallu quelques préalables. D'abord, moi je pense que la première chose qu'il faudrait faire, comme les autres l'ont dit avec d'autres termes, moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait l'autorité de l'État, monsieur Marcel. Si l'autorité de l'État est là, je pense que les Koulouna, quelle que soit leur diversité actuellement, ne peuvent pas dépasser l'autorité de l'État. Faute de quoi, nous nous dirons que l'État a échoué. Pour l'État, c'est que l'État devrait mettre d'abord tous les moyens possibles, conséquents, les moyens financiers, les moyens logistiques, les séances de vulgarisation, les séances de formation pour voir les modes opératoires de ces koulounas afin de pouvoir traquer, donc, leur montrer comment est-ce qu'ils doivent travailler avec la promptitude pour faire face à cette insécurité. Et la deuxième chose que je pourrais dire, M. Marcel, c'est de trouver également, et presque pratiquement dans le même sens, de trouver des solutions en amont aux causes homogènes et hétérogènes à la base de ces tragiques phénomènes. La troisième des choses également, M. Marcel, c'est de pouvoir bannir l'insécurité. Comment voulez-vous que vous puissiez aujourd'hui traquer, vouloir reconvertir ces gens-là? Mais dès lors qu'ils sont arrêtés, vous allez vous rendre compte, M. Marcel, que quelques deux jours plus tard, le même individu qui avait été mis à la prison, et vous le reverrez encore reprendre ses activités. Et des choses comme ça ne peuvent pas amener quelqu'un à pouvoir se corriger. Donc l'impunité aussi doit être revue de telle sorte que nous puissions réussir à traquer ces malfrats. La dimension suivante, M. Marcel, c'est qu'il faudrait également liguer les efforts de toutes les parties prenantes pour partager les informations en collaboration avec les services de sécurité. Si alors, au-delà de cela, c'est la chose la plus importante, c'est la prise de conscience de certains responsables de sécurité qui sont, M. Marcel, impliqués dans les sponsoring de ces malfrats. Parce qu'après les constats même dans les périphéries où nous nous retrouvons, vous vous retrouverez que l'insécurité est même causée par le même service de sécurité. Parce que comment voulez-vous qu'on vous attrape la nuit là? Vous êtes armé. D'où viennent ces armes? D'où viennent les tenues? Donc, ce sont les mêmes malfrats qui se déguisent. Si donc les séances de vulgarisation, la prise de conscience, les sensibilisations sur les patriotismes à travers les pays ne peuvent pas être à exclure, je pense bien que ce serait aussi beaucoup plus mieux. Le gouvernement également devrait diversifier aussi les emplois qui sont aussi parmi les causes majeures de ces phénomènes, M. Marcel. Voici ma petite contribution. Je pense que peut contribuer à ce que nous puissions voir la reconversion sociale des Koulounas à travers les pays. Merci beaucoup.
Merci Marcel Didier depuis Luisa. On revient à notre invité qui est dans ce studio, puis on va retrouver notre invité qui est en ligne, le professeur Célé Manyanga, qui est socio-anthropologue et enseignant à l'université de Kinshasa. Alors, Gabin Kindembe, comment réagissez-vous? Vous avez suivi toutes ces interventions.
Bon, merci beaucoup. Je vais réagir d'abord au premier intervenant, Monsieur Gaston, je crois. Il avait au début déclaré que le phénomène Koulouna n'est pas géré juridiquement. Donc, je ne souhaiterais pas faire passer cet aspect de raisonnement. Quand il dit des badauds, des voyous, nous disons que le phénomène Koulouna, c'est du banditisme urbain. Donc, la loi définit ce qu'est le banditisme et la loi sait ce qu'elle peut faire pour éradiquer le phénomène Koulouna. Aussi, il y a un élément très important qu'il faut épingler. Les intervenants au téléphone ont évoqué l'aspect de la police, l'aspect de service des renseignements. Nous en savons aussi quelque chose. Nous voulons aussi savoir que nous voulons dire que les services de sécurité, les services de la police, surtout les services de sécurité, ils savent où sont gardés, où sont hébergés ces enfants Koulouna. Donc, il faut peut-être un peu plus de moyens, un peu plus de rigidité dans leur façon de faire pour, ils savent déjà les modes opératoires des phénomènes Koulouna. Ils peuvent mettre à la disposition de la police certains éléments qui peuvent faire que la police puisse être plus apte et plus professionnelle sur le terrain. Maintenant, nous réfléchissons un peu sur la police. Vous savez qu'il y a des policiers qui ont fait autant d'années à un même poste d'attachement, par exemple. Ces policiers sont devenus amis même de Koulouna. Il y a même des policiers qui donnent des informations au Koulouna, s'il y aura par exemple le bouclage, s'il y aura par exemple... Alors, nous aurions souhaité que le président de la République ou bien les responsables numéro un de la police fassent un effort pour qu'il y ait un remaniement tant des leaders, disons des responsables de la police, que même des policiers eux-mêmes qui sont commis à sécuriser les personnes et leurs biens. Aussi, un élément important que nous voulons épingler, c'est le moyen à mettre à la disposition de la police.
C'est très important. C'est parce que bien souvent, c'est ce que déplorent les autorités, surtout municipales. Ils disent qu'ils n'ont pas assez d'éléments pour faire face. Ils ne sont pas équipés pour faire face à tout.
Oui. Je peux même citer, il y a une fois, j'ai assisté à un débordement de phénomène Kuluna dans les quartiers Ngoufou. J'étais de passage, je me suis arrêté et je suis arrivé au bureau du sous-siat de la police, je peux même dire, à côté de l'église d'Amos Mbayo. J'ai parlé avec le commandant qui était sur place, il me dit, chef, merci beaucoup. Et en plus, nous n'avons qu'une seule arme. Voyez un élément qui peut faire, et les enfants Kuluna ont cette information-là. Ils savent que non, ils peuvent tout faire, la police ne fera absolument rien. Ils m'ont même demandé de faire recours à l'unité de la police qui est la police de surveillance qui fait la sécurité à travers des véhicules là. Je me suis dit bon, si par exemple le véhicule se trouve loin de votre quartier pendant que le quartier est en train d'être menacé par des jeunes gens de phénomène Kuluna. Donc nous demandons aux autorités de la police de pouvoir doter la police des outils nécessaires pour faire face à ces multitudes de Kuluna. Il y a un petit exemple qui venait de se passer à Mombele. Les jeunes garçons qui menaçaient les policiers avec une arme blanche. Et derrière lui, il y avait d'autres Kuluna qui étaient aussi armés en arme blanche. Mais qu'est-ce que ce policier a fait? Il a juste neutralisé les Kuluna par son pied. Donc ça peut être un mode opératoire. Parce que ces Kuluna qui opèrent, ils savent que les policiers ne vont pas tirer sur eux. Nous recommandons pas aussi aux policiers de tirer pour limiter la vie de quelqu'un. Mais ils savent, en cas de légitime défense, ou bien pour persuader ces jeunes délinquants-là, ils ont des méthodes qu'ils ont utilisées. Et nous revenons aussi sur le recrutement même des policiers. Comment ont été recrutés? Je peux même paraphraser même le général Kanyama. Il a même dit, moi-même je l'avais suivi, qu'une fois il y a des policiers qui sont recrutés par recommandation, par lettre. Il y en a même qui se font succéder. Le papa est décédé, on prend un enfant policier qui n'est pas passé par une formation quelconque. Donc nous sommes en train de décrier et nous recommandons aux autorités de la République de mettre à la disposition de la police et de l'appareil judiciaire des mécanismes qu'ils font ou des moyens qu'il faut pour éradiquer les phénomènes Kuluna. Mais quant à nous, au niveau de la Fondation Gabé Kindembe, nous avons choisi l'approche de la socialisation des masses. Nous les approchons parce que nous n'avons aucune force de coercition. Nous ne pouvons pas aller les arrêter pour venir les traquer. Non, nous les approchons par des méthodes aussi simples. Nous allons vers eux, nous avons su quelles sont leurs revendications. C'est sur base de ces revendications-là que nous sommes en train de travailler pour essayer de combattre le phénomène Kuluna.
Voilà, vous allez nous faire, en tout cas, avant de nous quitter, un petit bilan par rapport à ce que vous avez déjà réalisé depuis que vous êtes dans cette reconversion du Kuluna. On va aller, en tout cas, rejoindre le deuxième invité, le professeur Sélé Manianga, qui est socio-anthropologue et enseignant à l'Université de Kinshasa. Il est en ligne. Bonjour, professeur Sélé Manianga. Professeur Sélé Manianga, vous êtes en ligne? Il me semble que le professeur Sélé Manianga n'est plus en ligne. Peut-être va s'affairer pour retrouver le professeur Sélé Manianga. Il est socio-anthropologue et enseignant à l'Université de Kinshasa. On revient à notre invité qui est dans ses studios, Gabin Kindembe, ambassadeur de la paix et coordinateur national de la Fondation qui porte le même nom. Alors, si on peut faire une espèce de bilan depuis que vous êtes lancé dans cette activité de reconversion de Kuluna.
Bon, ce n'est pas facile de faire les bilans maintenant, mais oui. Comme c'est la presse qui nous le demande, nous le disons et nous savons que nous sommes en action de lutte contre le phénomène Kuluna depuis le 14 août. Et en ce qui concerne les bilans, d'abord, nous avons sensibilisé plusieurs quartiers dans la commune de Matete.
L'action est partie de la commune de Matete.
Oui, oui. Et nous avons d'abord œuvré, nous œuvrons d'abord dans la commune de Matete. Le premier bilan qui serait aussi, qui a des effets de contagion, comme nous le disons, les cinquantaines de Kuluna que nous avons déjà, et qui sont en train de sensibiliser les autres, c'est déjà un élément à prendre d'une façon positive dans notre bilan. Nous avons aussi un support médiatique que nous avons déjà mis à la disposition de ces enfants Kuluna, la chanson que nous appelons « Kuluna Tiana C ». Cette chanson est sur en mode audiovisuel et en mode
Et qu'est-ce qu'on dit dans cette chanson peut-être
dans cette chanson Kuluna Tiana C, nous leur disons ceci il n'est pas important, il n'est pas aisé d'avancer les raisons selon lesquelles Bazana Moussalate, Basalakate, Boina Boye, parce que moi-même j'ai été un jeune garçon. Il y a eu des moments difficiles que nous avons passés dans la vie. J'ai eu à vendre le pétrole de Colo Colo quand j'étais à Boulungu. Nous avons eu à faire même le levage. Donc nous leur avons dit ça dans la chanson pour qu'ils comprennent que ne pas avoir du boulot, ce n'est pas une raison, ce n'est pas une excuse pour aller faire du banditisme urbain. En dehors de notre chanson, nous avons plusieurs émissions que nous avons lancées. Nous avons l'approche que nous sommes en train de mener. Et un élément aussi très important que nous pouvons mettre dans le lot du bilan de notre action, nous avons disponibilisé déjà une voiture pour les enfants qui désirent faire l'auto-école. Donc nous avons déjà une voiture décorée aux couleurs de la fondation. Cette voiture-là permettra à ceux qui veulent être chauffeurs dans la vie, après être socialisés, pour se faire réinsérer dans la vie, nous allons leur apprendre l'auto-école. Donc, c'est déjà des éléments positifs que nous pouvons mettre dans les lots de notre bilan qui est à mi-parcours. Nous avons d'autres actions que nous voulons mener dans la semaine qui suit. Donc, ça sera les actions porte à porte avec des microphones que nous allons disposer pour sensibiliser les jeunes contre le phénomène Kuluna. Voyez d'une façon succincte. Nous ne pouvons pas ramasser tout, mais pour permettre à nos auditeurs de savoir comment nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de travailler avec les moyens de bord. Ce sont les moyens que nous disposons, les moyens de la Fondation, pour sensibiliser les jeunes contre le phénomène Kuluna.
Bon, on me fait signe que le professeur Sélé Manianga est de nouveau en ligne. Professeur Sélé Manianga, rebonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, c'est bon. Maintenant, vous êtes socio-anthropologue et enseignant à l'Université de Kinshasa. Et nous parlons de la réconversion sociale de Kuluna. Vous êtes socio-anthropologue. Ces phénomènes Kuluna qui refait surface, est-ce qu'il y a moyen de voir comment, en tout cas, réinsérer socialement ces jeunes gens qu'on appelle Kuluna, mais qui sont, comme on le dit clairement, de brigands urbains?
Oui. Merci, messieurs les journalistes, et aussi bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Kati. Sans doute, c'est pas la première réflexion qui se mène sur ce phénomène Kuluna. C'est en lien même avec, comme nous l'avons évoqué la fois passée, la consommation de drogues et aussi de l'alcool. Ce qui est vrai, le banditisme urbain existe. Sur le plan de la sociologie urbaine, lorsque les villes naissent, il y a toujours des maladies de la ville ou les pathologies sociales. Et ce qui est vrai pour ce qui est de la ville de Kinshasa particulièrement, mais aussi toutes les grandes villes, hein, apparemment je viens dans la ville de Bandundu, là je suis dans la province du Kwilu, où ces phénomènes Kuluna, c'est plus que même parfois par rapport à certains quartiers de la ville de Kinshasa. Mais ce qui est vrai, il faut d'abord savoir que c'est le reflet particulier des rapports sociaux que nous avons dans la communauté. Mais quelle sorte de société que nous sommes en train de construire? Pratiquement, c'est une réponse, hein, peut-être que les gens se disent, bon, écoutez, on n'a pas du travail et tout ça. Non, non, non. Je ne pense pas que pour les pays africains, que le travail, le taux de chômage, il y a même des statistiques, ce qui est vrai, mais nous revenons un peu par rapport à la gestion même. Je sais qu'on a commencé un processus par rapport à mes prédécesseurs, je vais parler par exemple des Kanyamaka CC. Mais ceux qui vont à Kanyamaka CC, il y en a qui retournent. Ou que certains sont restés, ils font quelque chose. Donc il y a déjà quelque chose qui s'est fait. Il y en a qui sont en prison et qu'on sort. Maintenant, il faut se dire que, comme c'est le reflet de cette société que nous sommes en train de construire, qu'il faudra maintenant qu'il y ait la gestion à plusieurs niveaux. Sans doute en famille, quand les enfants viennent, ce qu'on leur veut, c'est du bonheur. Mais comment ces enfants viennent, quelle est la vie à la maison et quels sont les problèmes familiaux qui poussent les enfants à commencer d'abord à faire l'école buissonnière ou peut-être être dans la rue et après devenir des grands bandits. Et aussi ces familles-là, comment ils gèrent ces enfants? Il y a des quartiers, tu arrives, tu dis, c'est ce garçon ici, votre fils, qui m'a arraché le téléphone hier la nuit, je le reconnais. La réponse de la maman, c'est comme si, même si la maman prie, hein, parce que les Congolais, on est trop chrétiens, puisque là où le christianisme même a vu le jour, même si la personne reconnaît la faute de l'enfant, il va te dire non. Ce n'est pas mon enfant, on est sakayete, excusez, parce que là c'est un peu de mon lingala, parce que je suis à Kinshasa où je peux parler de ce qui est vécu à Kinshasa. Donc c'est un peu ça. Gestion au niveau de la famille. Mais gestion sociale, parce que nous avons des quartiers, nous avons des rues et tout. On connaît, il y a des rues où tu ne peux pas piétiner. Comment ça se gère? Nous avons des autorités. Les chefs des rues, chefs des quartiers sont là. Encore plus la gestion politique. Politique, pourquoi? Parce qu'à un moment, en soi, les Kuluna, ça pourrait même paraître comme si c'est une production des hommes politiques qui sont capables, pour des raisons d'intérêt du pouvoir, pour devenir parlementaire ou que peut-être se dire que je suis le chef de telle entité, ils vont former des jeunes à qui ils donnent l'argent, qui vont agresser la population. Et du coup, comme la société dont je parlais, qui s'est construit par rapport à des rapports du plus fort et du plus faible, quand vous allez en justice, c'est le plus fort qui donne l'argent et la personne revient dans les quartiers pour te dire « Ah, tu pensais que je pouvais bien disparaître, mais je suis là. » Et il va encore faire des abus qui feront qui vont te pousser à te taire. Donc c'est ça en fait. Aujourd'hui, nous nous disons « Ok, c'est bon », mais mêmement par rapport aux policiers, comme vous le dites. C'est toujours, il faut voir cette société. Qu'est-ce que nous voulons de cette société? Ce qui est vrai, à Kinshasa, il fut à un moment, il y avait des grands bandits, peut-être qu'ils n'avaient pas l'âge des enfants d'aujourd'hui, mais il y a eu des mécanismes de gestion. Sur le plan juridique, la corruption, les parents sont capables d'aller vendre de la parcelle pour dire qu'il faut qu'ils sortent. Mais ils ne savent pas qu'est-ce que l'enfant a fait. Et l'État, c'est ça. Il ne punit ni les parents. L'enfant qui sort va encore gérer ça.
Alors, professeur, à vous suivre, il y a lieu de se dire que la faute incombe et à l'État congolais et à la famille, et c'est-à-dire que c'est tout le monde qui doit s'impliquer pour trouver une solution à ces phénomènes de Kuluna. Vous avez dit là peut-être des familles qui protègent leurs enfants, vous avez dit là eux-mêmes le Kuluna qui invoque comme raison que c'est parce que j'ai pas de travail, et vous avez dit quelque part il y a également la gestion politique de la chose. Alors qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, dans un premier temps, comme remède, hein, pour en tout cas faire face à ce phénomène Kuluna et surtout assurer la réconversion sociale de ces brigands humains, parce qu'il faut vraiment les appeler comme ça.
Oui, mais je pense que les jours où il y aura un conseil de ministres et que le président de la République met cette question sur la table pour dire à tous les ministres qui ont de l'autorité sur la gestion publique.
Oui.
Et qu'on donne des instructions à tout le monde sur le plan de la sécurité ou de l'administration territoriale, je pense que ces enfants-là vont cesser eux-mêmes de devenir Kuluna. Parce que s'ils sont punis et qu'on dise, pratiquement ça deviendra une loi, lorsque le président décide de dire « je ne veux plus écouter ce phénomène Kuluna », je pense qu'il y a des gens qui prendront des mesures. Parce que sans doute, comme je l'ai dit, et les familles, nous tous, en fait, nous sommes en train d'entretenir ça. Nous tous. Parce que nous ne parlons plus. On ne peut pas avoir des gens qui marchent pour dire trop, c'est trop par rapport à ces Kuluna. Combien de mamans, d'hommes, des enfants qui meurent par rapport à ces Kuluna? Combien? Et on connaît même la cartographie, elle est bien connue. Il y a même des des actions Et après elle.
Professeur Célé, professeur Célé Manianga, votre ligne s'égate, mais en tout cas, on reviendra certainement à vous, dans d'autres émissions, parce que ce phénomène a aussi longtemps qui, en tout cas, il va continuer à se faire parler de lui. Nous, on va pas arrêter d'en parler sur notre chaîne pour voir dans quelle mesure il faut trouver de remède. En tout cas, on vous remercie, professeur Célé Manianga. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue et enseignant à l'université de Kinshasa. Voilà, on va conclure également avec notre invité qui est dans le studio, Gabin Kindembe, ambassadeur de la paix et coordinateur national de la fondation Gabin Kindembe. On va pas croiser les bras. Il faut que l'État congolais, il faut que la population, il faut que tout le monde s'implique pour en tout cas faire face à ce phénomène Kuluna et surtout voir comment assurer la réconversion sociale quand vous tentez déjà de le faire.
Oui, merci monsieur le journaliste. Je fais mien le raisonnement de notre intervenant de tout à l'heure, le professeur. Il a une expérience en ce qui concerne le banditisme urbain. Il en a détaillé quelques aspects. Alors, c'est pourquoi moi je dis que je partage son avis en disant que nous sommes tous responsables de ces actes barbares qui sont causés par les phénomènes. Par le phénomène Kulunda animé par nos jeunes enfants. C'est pourquoi je disais ceci. Il faut que la police s'y implique. Il faut que les services de sécurité, il faut que la justice et tous les ministères qui ont une part de responsabilité dans la gestion de la jeunesse puissent avoir un mot d'ordre. Et nous souhaiterions, comme l'a dit, le président de la République doit taper sur la table pour que nous ne connaissions plus Ituri à Kinshasa. Non loin de la ville de Kinshasa, il y a la ville de Bandundu, les périphéries de la ville de Bandundu qui est en train de subir les actes barbares. Et nous, en tant que politologues, nous sommes en train de faire une corrélation entre ce qui se passe dans la province de Bandundu et ce qui se passe ici à Kinshasa. Et sur base de cette corrélation, nous interpellons le pouvoir pour poser des actes qu'il faut et bannir le Kuluna tant à Kinshasa que dans le reste du pays.
Gabin Kindembe, ambassadeur de la paix, coordonnateur national de la fondation qui porte le même nom. Merci beaucoup.
Merci, monsieur le journaliste.